Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous retrouver pour accueillir Anne Amalric. Anne, bonjour.
Bonjour Anne-Marie. Et je profite que j'ai la parole pour te remercier parce que tu viens régulièrement nous assister et nous aider à cette émission de la CAT. Et c'est très précieux. Alors, je voulais le dire.
Merci beaucoup. En effet, nous allons nous retrouver pour cette émission mensuelle avec l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et en ce début d'année qui est le temps des vœux, et parmi ces vœux, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture a souhaité la paix. Et c'est plus que légitime, alors que partout dans le monde, mais aussi près de chez nous, nous parviennent des bruits de guerre. Mais le mot « paix » évoque tout et son contraire. Peggy disait « Faire la paix est source de toutes les grandeurs, comme avoir la paix est la source des lâchetés. » Alors c'est sur cette introduction que vous souhaitiez que nous commencions par déjà essayer de définir qu'est-ce que la paix pour les chrétiens.
Oui, alors je voudrais dire que justement, notre journal trimestriel, qui s'appelle Humain de la CAT, a consacré tout un tas d'articles sur la paix. C'est d'actualité, comme le disait Anne-Marie, la paix, comment penser la paix, penser EN, et comment la penser AN. Alors, peut-être on parlera d'abord, dans un premier temps, comment penser la paix et comment la penser en tant que nous chrétiens. Puisque vous le savez, l'action, la CAT, c'est l'action des chrétiens. Et le côté de chrétien de la CAT, c'est pas simplement pour mettre sur un logo, mais ça fait partie de notre ADN et de notre action. Donc on va penser EN, la paix, en tant que chrétien. Voilà. Et on partira de l'évangile. Comment, à partir de l'évangile, nous chrétiens, on pense la paix? Alors, la paix, c'est d'abord, on le dit, c'est à la fois la demander la paix et faire la paix. Comment on la demande? À demander, car c'est Jésus qui nous la donne. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix, la paix de Jésus. Voilà. Mais aussi, c'est une paix à faire. Et dans l'évangile aussi, au niveau des béatitudes, il y a heureux. Et heureux les artisans de paix, ceux qui aiment la paix, ceux qui veulent faire la paix. Voilà. Donc nous avons une action, enfin une mission, plus que ça. Tu dirais ça, Anne-Marie?
Oui, tout à fait, une mission.
En tant que chrétiens et chrétiens à la CAT, nous avons cette mission d'être artisans de paix. Voilà. Et toujours au niveau de l'évangile et de la Bible, la paix se fait pas sans justice. La paix, selon la Bible, implique plus que l'absence de guerre. Et ça, je crois qu'il faut le souligner parce qu'actuellement, on recherche la paix, mais surtout, arrêtons les combats, arrêtons la guerre. Mais les raisons de la guerre, est-ce qu'on les recherche? Est-ce qu'on essaie de combattre les injustices? C'est ça surtout, hein. Voilà.
Je crois que ça peut être intéressant que vous développiez un petit peu ce qu'on appelle la paix, qui n'est pas que l'absence de guerre. Il y a effectivement la notion de justice, de relation harmonieuse entre les hommes, de respect de la dignité humaine. Et là, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, comme l'Amnesty International ou d'autres associations non chrétiennes, humanistes, ont tout un volant d'informations sur notamment les conditions dans lesquelles les gens sont souvent détenus.
Tout à fait. Mais je crois qu'on a du mal à accepter ça parce qu'on entend des voix plus fortes qui s'imposent et on pense qu'il n'y a pas d'autre solution à, justement, à ces conflits. Et en fait, il y a d'autres solutions à ces conflits. Même, j'allais dire, bon, il y a des pays en guerre qu'on connaît, mais pour nous ici, même en France, on se dit il y a des conditions de conflit qu'on pourrait éviter. Et pour avoir la paix. Et donc, même si les armes se taisent, il n'y a pas de paix là où les hommes sont privés de conditions de vie nécessaire à une vie digne. On a parlé, je crois, à une précédente émission de la dignité. Et je crois que ça, on ne fait pas attention à ça. Et justement, il n'y a pas de paix si les hommes ne peuvent développer toutes leurs capacités humaines et spirituelles. Et la principale atteinte à la paix dans notre société, c'est qu'on se résigne à voir des centaines de millions de personnes maintenues dans des conditions contraintes à la dignité. La misère matérielle, les discriminations, le mépris, les structures sociales déshumanisantes. Voilà, alors je crois qu'il y a eu une émission une fois sur les conditions déplorables en prison, de détention. Ça en fait partie, ça
tout
aussi.
À fait.
Parce qu'après, ces gens-là, ils ressortent, ce sont des gens qui sont aigris parce qu'ils ont vécu des choses difficiles. Au lieu d'avoir reçu, je ne sais pas, un accompagnement qui les aide à la sortie, à être autre, non, ils ressortent, voilà.
Et nous vous avions fait part d'un article qui était paru dans la Gazette, article qui parlait des conditions de travail des surveillants à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Et là, c'est pareil. Comment parler de paix en respect de la dignité de l'être humain si que ce soit les détenus, que ce soit les surveillants, se trouvent dans des conditions de vie inacceptables?
Absolument. Et bon, c'est un prix à payer, la paix. Et on ne fait pas la justice, alors, puisque la paix, c'est la justice, on ne fait pas la justice sans combattre les forces qui provoquent les injustices. Par exemple, combattre à notre mesure. À la CAT, on combat les forces qui provoquent ces injustices en écrivant donc aux gouvernants des pays qui acceptent ces injustices, à la limite, ce sont les artisans de ces injustices. Hein. On écrit donc aux responsables peut-être des prisons, mais aussi aux responsables politiques de ces pays. Et c'est la violence, ça fait le redire aussi, que le conflit n'est pas contraire à la paix. C'est pas de dire, bon, pour avoir la paix, on se tait, bon. Mais c'est aussi, entrer peut-être en conflit, mais en conflit pacifique, avec ses, avec ses dirigeants, avec ceux qui créent ces conditions difficiles pour les gens qui, après, je sais pas.
L'étymologie du mot « conflit » est souvent ramenée au mot « heurt », H-E-U-R-T. Et c'est vrai que, dans le cadre de ces conditions inacceptables, non respectueuses de la dignité de l'être humain, quel qu'il soit, enfant, adulte ou personne âgée, homme, femme, eh bien, le conflit, le « heurt », c'est justement vouloir réagir contre ces conditions inacceptables. Mais c'est toute la difficulté de peut-être trouver un mode non violent de conflit tout en étant important.
Et alors justement, peut-être on peut parler d'associations ou d'organismes, parce qu'il y a de nombreuses organisations qui sont engagées dans des actions pacificatrices. Et pourtant, bon, elles le font de façon pacifique, mais enfin, elles ont à cœur de partager leurs idéaux et leur savoir. Alors parmi ces organisations, il y a, excusez-moi l'accent, l'International Fellowship of Reconciliation, qui a été créé en 1919 par des chrétiens de confession et de nationalité différentes. Et cette organisation, inspirée de l'Évangile, comme on disait au début, parce que cela ne va pas de soi de dire on va s'opposer à la violence sans répondre par la violence, parce que la plupart du temps, on répond à la violence par la violence. Donc, cette organisation promeut la non-violence active par l'éducation, et ça c'est important, les luttes contre les injustices et l'étude des rapports entre la religion, la paix et la résolution de conflits par la non-violence. Et en France, cette association a été à l'origine d'une branche qui a été créée en 1923, qui s'appelle le MIR, le Mouvement International de réconciliation. Je ne sais pas, on a entendu parler de ce mouvement. On en parle moins maintenant. Il y a eu un temps où on en a parlé. Voilà. Mais elle existe toujours. Et voilà, elle a le souci d'encourager dans le sens de la non-violence. Et il y a eu des mouvements de résistance. Alors, actuellement, donc, le MIR, il est co-dirigé par le pasteur François Diès et Christian Renoux. Ça, c'est une première organisation. Il y a une autre organisation, ce sont les Brigades de paix internationales qui offrent, elles, un accompagnement physique protecteur et un soutien moral aux défenseurs des droits humains ou à des organisations locales œuvrant en faveur des droits humains. Parce que souvent, d'ailleurs, la CAT, souvent les appels urgents concernent des personnes qui œuvrent justement pour la résolution de conflits dans leur pays. Et donc, ces gens-là ont besoin d'être soutenus. Alors, la CAT les soutient, mais les brigades de paix internationales aussi les soutiennent. Et puis, une autre organisation, c'est le mouvement Une alternative non violente, qui a été constitué, qui s'est constitué après la Seconde Guerre mondiale et qui regroupe des mouvements sociaux, écologistes et pacifistes. Voilà. Et cette organisation prône la désobéissance civile et l'action non violente. Je pense à quelque chose, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, je ne sais pas à quelle occasion, près de chez nous, il y a eu à un moment, sur le Larzac, où il s'agissait de créer, je crois, une base militaire. Il y a eu tout un mouvement non-violent qui a créé contre cette installation. Tu t'en souviens,
oui,
Marie?
Oui, tout à fait. Voilà. Et il continue d'être vigilant parce que, hélas, la crainte existe toujours.
Voilà. Alors, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps.
Oui.
Pour parler d'une action, alors là, à un niveau d'un pays, c'est en Colombie, au cœur du conflit armé colombien, est née la communauté de paix de San José des Apartado. Excusez-moi toujours pour l'accent. Parce que la plupart du temps, les violences et les conflits dans ces pays naissent parce qu'il y a encore des petites communautés qui sont sur des terrains, souvent des terrains fertiles, où il y a des ressources minières, voilà. Et la plupart du temps, il y a des forces nationales qui veulent prendre possession de ces pays. On en reparlera tout à l'heure à propos de l'appel d'urgent des Mapuches, justement. Donc, il y a ces petites communautés veulent garder leur veulent rester sur leur terre et on les chasse de façon violente. Et alors depuis 1997, il y a plusieurs, là je reviens à la Colombie, il y a plusieurs centaines de paysans déplacés de force qui façonnent une voie contre la violence armée et la résignation. Donc, parce qu'il y a deux attitudes par rapport à ça, donc répondre par la violence ou bien se résigner. Et donc, depuis sa création en 1997, la communauté de la paix, ça aussi il faut le reconnaître, parce que même si elle est non violente, elle fait l'objet de répression. Depuis 1997, la communauté de paix a subi plus de 400 assassinats. C'est énorme.
Oh là là.
Et d'innombrables menaces de la part d'acteurs armés, tant légaux qu'illégaux. Voilà. Et alors, la question se pose, là, a été posée, qu'est-ce que la paix lorsqu'on vit en pleine guerre civile? Et comment, alors là, cette communauté, elle s'est posée la question, comment échapper aux allégeances exigées sous menace d'assassinat? Les premiers membres de la communauté se sont déclarés neutres dans le cadre du conflit armé qui a déchiré la Colombie des années 1960 jusqu'en 2016. Voilà, mais c'est beau que cette communauté à chaque injustice. Elle refuse de répondre à la violence par la violence. Et le refus de la vengeance, c'est une réponse collective de cette communauté. Alors concrètement, puisque je parlais de ces paysans, de cette communauté qui font partie de cette communauté de la paix, de San José de Apartado, qui est un secteur géographique. Ils se déplacent en groupe, ils organisent des travaux communautaires et ils entament un travail de plaidoyer politique avec des ONG colombiennes et internationales. Je trouve que c'est un exemple. On devrait connaître davantage l'action de ces gens-là pour que ça fasse... bon, que ça soit un exemple et qu'on puisse... oui, s'en inspirer. Ça veut dire que, je le disais tout à l'heure, leur neutralité n'implique pas l'acceptation de la violence. Les membres de cette communauté ont toujours, donc leur façon de réagir, ils ont toujours nommé les responsables de graves violations des droits humains. Ils ont toujours dénoncé les déforestations et dénoncer l'indifférence des gouvernements successifs. Voilà. Et ils disent, nous sommes les seuls qui osent dire ce qui se passe dans la région. Il faut avoir ce courage-là. Mais aussi, ils payent leur courage par
des assassinats.
Des assassinats, 400 assassinats, c'est énorme. Hein. Mais ils ont abouti à quelque chose, et c'est quand même ça, il faut le souligner. En décembre 2004, la communauté de paix a signé un accord amiable avec le gouvernement du progressiste Gustavo Petro, mettant fin à près de 30 ans de rupture avec l'État. Alors, bon, pour le moment, le courage politique, enfin bon, ce qui a été décidé tarde à arriver, mais la communauté de paix de San José de Apartado, suit un chemin à la fois pacifique et révolutionnaire. Pacifique parce que, bon, il ne s'engage pas dans des actions violentes, mais révolutionnaire parce qu'il a le courage de dénoncer ce qui ne va pas. Voilà. Et cela ne va pas sans difficulté parce que, justement, la compagne et le frère de 14 ans du coordonnateur humanitaire de San José, donc de cette communauté, ont été assassinés en 2024.
Merci beaucoup Anne pour cet exemple extrêmement concret, extrêmement fort, qui montre qu'il est possible, mais pas à n'importe quel prix effectivement, de lutter pour la paix, de manière notamment dans un pays de guerre civile.
Alors on se dit, oui, on se dit que nous qui vivons dans un pays quand même, où on n'est pas dans ces conditions-là, et nous les chrétiens, nous, enfin bon, les églises aussi, nous avons à nous engager. Et d'ailleurs, la CAT, je le redis, elle a là aussi la démarche de sensibiliser nos églises à ces questions-là pour les inviter à s'engager, notamment pacifiquement, en écrivant des appels urgents.
Voilà, nous vous en parlerons tout à l'heure. Je vous invite à la pause musicale.
¿Quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será? ¿Quién será?
¿Quién será la que me dé su amor?
¿Quién será? ¿Quién será?
Yo no sé si la podré encontrar.
Yo no sé, yo no sé.
Yo no sé si volveré a querer.
Yo no sé.
He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Y quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será? ¿Quién será?
¿Quién será la que me dé su amor?
¿Quién será? ¿Quién será?
¡Vaya!
retrouvons Anne Amalric, notre invitée aujourd'hui pour l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et sur cette deuxième partie, nous allons aborder la question de l'appel du mois. Que vous soyez non-chrétien, que vous soyez non-adhérent à la CAT, vous avez tout à fait la possibilité de vous associer à cette lutte de manière non-violente contre ce qui se produit dans tant et tant de pays. Et je passe la parole à Anne.
Oui, puisqu'Anne-Marie signale que c'est à la portée de tout le monde, je voudrais dire que nos actions, elles sont sur le site internet A4 France, en minuscule et tout attaché, .fr. Là, vous trouverez donc l'actualité de l'A4 et surtout les actions à mener, mais à votre portée. Parce que, donc, il s'agit simplement de signer, des fois, un mail, enfin, quelque chose comme ça. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire de démarches particulières. Mais on ne le fait pas n'importe comment non plus, hein. Voilà. Donc, je voulais dire, insister sur ce détail pratique.
Alors, est-ce que vous avez, je crois, quelques informations sur les retours des appels du mois ?
Alors, pour les adhérents, c'est facile, ce retour sur les appels du mois, mais vous le trouverez aussi sur ce site, c'est sur notre journal dont je parlais tout à l'heure, un journal trimestriel qui s'appelle Humain. Alors, dans celui de la fin de l'année 2025, justement, ont été signalés des retours sur action. Alors, il y a des retours qui sont négatifs. Mais puisqu'on est en début d'année, soyons positifs, je voudrais souligner les actions positives. Alors, une bonne nouvelle, c'était au niveau du Mexique. C'était une affaire... voilà, Cassès et Vartala. Vartala et Israël Vartala, excusez-moi les noms, c'est difficile. Il avait été victime de détentions arbitraires et de tortures. Israël Vartala, l'ex-compagnon de Florence Cassès, a passé presque 20 ans en détention provisoire. 20 ans en détention provisoire. Et le 1er août 2025, il a été libéré et acquitté. Dans une décision inattendue. Et malgré les menaces, l'arrestation des membres de sa famille et un état de santé de plus en plus fragile, il a pu quitter... la prison de l'Altiplano comme il le souhaitait. Et il a été enfin reconnu innocent par la justice américaine. Alors, on ne le perd pas de vue quand même, parce que son frère est encore en prison, ainsi que son neveu. Et ils sont encore torturés, et donc on perd de vue, on ne les perd pas de vue. Voilà. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, si après 20 ans de détention, il a pu être libéré. De la même façon, en Iran, Esmal Jerami a été libéré. C'était un défenseur des droits, ancien travailleur retraité de l'Iran Carton Company et militant pour les droits des retraités depuis 2017. 2017, il a été libéré de la prison de Téhéran. Lui, il avait purgé simplement une peine, il faut le faire, hein, d'un an. Voilà, Anne-Marie me presse parce que je ne peux pas passer tout le monde. Alors, voyez, je vous cite ces exemples de libération.
Ce qui est très important de rajouter, c'est qu'effectivement, chacune et chacun d'entre nous, peu importe que nous soyons adhérents ou pas, que nous soyons chrétiens ou pas, j'y reviens, en signant un appel du mois, nous donnons du poids auprès de ceux qui oppressent, qui torturent et qui mettent en prison, injustement notamment, des personnes. Donc vraiment, nous vous invitons, en allant sur A4 France en minuscule tout attaché.fr, de regarder les appels du mois, de les signer, et de temps en temps, vous aurez par les membres de l'A4 des retours positifs, comme ceux dont Anne vient de nous parler.
Pas toujours. Enfin bon, elle est très optimiste, Anne-Marie. Il y a des moments où c'est plus difficile. Mais quand même, on doit se réjouir de nos actions qui ont porté leurs fruits. Alors, peut-être on va parler de l'appel du mois de ce mois-ci, que vous pourrez signer, et qui est adressé au président de la République du Chili, et qui concerne Julia Junil. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire. C'est la deuxième fois qu'on intervient pour elle. C'est une défenseure mapuche chilienne et qui est figure emblématique de la lutte pour la protection des terres indigènes. Je vous disais tout à l'heure que ces gens, ces indigènes qui possèdent des terres qui intéressent des promoteurs, ils sont souvent l'objet de déplacements forcés. Hein. Alors elle a disparu. Elle a disparu le 8 novembre 2024, donc ça fait plus d'un an qu'elle a disparu, alors qu'elle quittait son domicile à la recherche d'animaux égarés dans une forêt dont elle avait la charge, accompagnée par son chien. Voilà, enfin, je cite ça. Et depuis cette date, donc du 8 novembre 2024, on n'a plus aucune nouvelle d'elle. Et alors, sa disparition est intervenue alors qu'elle faisait face à des menaces de la part, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'un entrepreneur de l'industrie forestière qui cherchait à s'approprier les terres de Roulia et de sa communauté. Voilà. Et d'ailleurs, elle n'était pas... Je veux dire, elle comprenait qu'elle risquait en s'opposant à ce promoteur, je dirais, parce qu'elle avait confié à sa famille, si quelque chose m'arrive, vous savez qui c'est. Mmh. Voilà. Donc, ou du moins par cet appel urgent, la 4 France dénonce le climat d'impunité et de violence alarmant qui règne contre les défenseurs des droits de l'homme autochtones, au Chili. Voilà. On pourrait en dire beaucoup. Mais là, ça fait la deuxième fois et je crois que, j'insiste, il faut signer cet appel urgent. Mmh.
Vous vouliez nous donner lecture d'un document écrit par Dietrich Bonhoeffer.
Oui, on en a beaucoup parlé. Enfin, je ne sais pas. Nous, à la CAT, on en a beaucoup parlé de Dietrich Bonhoeffer qui s'est engagé au moment de la guerre contre le nazisme. Mmh. Alors, il était non-violent, et justement, il prônait une action non-violente, mais il a été obligé de s'engager. Alors, c'est pour ça que, pour terminer cette émission, je voudrais vous lire une méditation de Dietrich Bonhoeffer. Il ne s'agit pas seulement de faire preuve de bienveillance envers les gens bienveillants, mais justement aussi envers les malveillants. Pas seulement d'être pacifique avec les pacifiques, mais justement avec ceux qui ne veulent pas nous laisser vivre en paix. Le reste, les païens le peuvent aussi. Jésus-Christ n'est pas mort pour les bienveillants et les pacifiques, mais pour les pécheurs et les ennemis, les malveillants, ceux qui haïssent, qui donnent la mort. Jésus, lui, se tenait au milieu de ses ennemis. C'est là qu'il voulait être. C'est là qu'il nous faut être aussi. Cela nous distingue des adeptes de toute autre doctrine ou religion. Leurs fidèles aiment à rester entre eux. Mais le Christ veut que, comme lui, nous nous tenions parmi nos ennemis. C'est au milieu de ses ennemis qu'il a souffert la mort de l'amour de Dieu et qu'il a prié. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est parmi ses ennemis qu'il faut remporter sa victoire, qu'il veut remporter sa victoire. Ne battez donc pas en retraite, ne vous écartez pas, mais ayez de bonnes intentions envers chacun. Procurez la paix à tous, pour autant qu'ils dépendent de vous. Et on a rappelé que, ça j'ajoute quelque chose, on a rappelé que on peut faire quelque chose.
Voilà, merci beaucoup Anne d'avoir mis l'accent ce début d'année 2026 sur le thème de la paix, où tout est possible, même si parfois c'est au péril de sa vie, mais c'est pour une cause importante, respect de la dignité de tout un chacun. Merci à Léonie qui a été à la régie, et je vous propose de nous retrouver pour la prochaine émission de la CAT le 20 février. Merci, au revoir.